Je vais vous lire la première lecture dans Jacques 2, versets 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Au début de ce mois, il y avait Don Ekman qui nous avait parlé de la conversion. Et puis c'est vrai qu'on avait eu un petit peu de difficulté à saisir à quel moment Pierre avait eu sa conversion. C'est vrai que pour nous aussi, qui sommes nés dans, enfin, en tout cas pour moi, qui suis né dans une famille chrétienne, l'avant et après conversion peut être parfois difficile à saisir. Il y a évidemment un moment où on choisit Jésus comme sauveur, où on l'accepte comme sauveur, mais on a déjà été tellement imprégné par la vie, par la foi chrétienne, que le cadre dans lequel on évolue est parfois assez difficile à saisir. Ceci nous amène assez naturellement à vouloir sortir la loupe pour savoir où on met les pieds. Et quand on arrive sur le verset « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle le sauver ?» En ne lisant pas avec les lunettes habituelles, mais en sortant la loupe, on est amené à se poser quelques questions pertinentes. Alors derrière ce verset, il y a un élément essentiel pour notre vie de chrétien. Mais pour pouvoir l'aborder dans le bon sens, je vais tout d'abord faire un tour de différents points qui lui sont liés. Ce tour d'horizon suit les étapes de ma réflexion sur le sujet qui a eu lieu il y a quelques temps déjà. Alors la première question qui m'est venue à l'esprit en lisant ce verset est « Comment est-on sauvé ?» Ce que j'avais compris, c'est que mon salut ne dépendait pas de mes actions, mais uniquement de ma foi en la grâce de Dieu. Mais si Dieu n'était pas de cet avis? Jacques énonce que la foi sans les œuvres ne sert à rien. Comme notre salut en dépend, ça vaut la peine de s'arrêter un coup et de regarder quelles sont les œuvres que Dieu attend de nous. Alors, on commence tout d'abord par consulter l'Ancien Testament. Ce que l'on voit, c'est que depuis la création, Dieu énonce un certain nombre de commandements et il exige qu'ils soient appliqués complètement et en permanence. On voit par exemple dans Deutéronome 27, où il dit « Maudit soit celui qui n'accomplit pas continuellement les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique ». Bon, ceci, c'est pas vraiment une surprise, mais il me semblait tout de même bon de le repréciser, parce qu'en regardant le comportement des êtres humains, en général, on cherche souvent, au travers d'efforts, à aboutir quelque part. Mais Dieu ne nous demande pas de tendre vers la perfection, il nous demande d'être parfait, ce qui est très différent. Et ceci nous ramène à une attitude plus humble vis-à-vis de nos efforts. Mais ce sont davantage les conditions qui sont liées au salut offert par Jésus qui me préoccupent. Alors maintenant, regardons quel est le message de Jésus dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 7, il est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Là, ça devient un petit peu plus contrariant, parce que tous les versets qu'on lisait avec un petit peu plus de recul vis-à-vis de leur portée prennent un sens un peu plus capital. Alors, je ne vais pas insister davantage sur ce point, mais je vais aller directement au bout de cette voie. Et je vais inviter Xavier à procéder à la lecture de Matthieu 19.
Alors, Matthieu 19, 16 à 26. Alors, un jeune homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. »« Lesquels ?» demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples, vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. »
Alors, lorsqu'on comprend les exigences de Dieu et qu'on désire y répondre pleinement, on arrive dans une voie sans issue, humainement en tout cas pour nous. Et c'est vrai que les impasses, elles nous amènent à nous poser les bonnes questions. Et tout comme les disciples qui après ont posé la question à Jésus, mais comment peut-on être sauvé? Nous également, en avançant dans cette voie, finalement on se rend compte, effectivement, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une seule. Ce qui nous amène à conclure ce paragraphe par les versets dans Romains 3, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce, c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Alors maintenant, si on revient à la lettre de Jacques, il y a quelque chose quand même qui nous échappe. Nous venons de voir que le salut ne dépend pas de nos œuvres. Mais Jacques insiste sur l'importance des œuvres. Alors, avec le verset que nous avons dit tout à l'heure, on n'arrive pas à trouver directement des réponses. Heureusement, Jacques, il prend le soin d'ajouter des exemples pour éclaircir ses propos. Avec, par exemple, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Alors, en lisant ce verset, il y a quelque chose qui nous dérange. Parce que si l'on suppose que notre foi n'est pas suffisante et que les œuvres sont nécessaires à notre salut, l'œuvre d'Abraham, qui est citée en exemple, est contraire à tout ce qui est demandé par Dieu. Dieu ne désire pas que nous tuions qui que ce soit, bien au contraire, il nous ordonne de tuer personne. Et pour revenir sur l'exemple d'Abraham, Dieu a arrêté Abraham avant qu'il ne tue Isaac. Et pour compléter ce point, qui était pour l'instant du côté de Dieu, un homme peut tuer quelqu'un sans que cela n'implique sa foi. L'œuvre tuer quelqu'un ne démontre donc en aucun cas notre foi. Actuellement, nous faisons fausse route dans la compréhension des œuvres dont Jacques parle. Il ne s'agit pas des œuvres faire, mais des œuvres croire. Et c'est important de le souligner, parce que l'homme, de manière générale, est tenté de tout ramener à portée humaine, c'est-à-dire enlever le croire et garder le faire. Ceci est également valable pour le salut, pour lequel nous cherchons souvent une checklist qui nous assurerait le salut. Alors, quel est ce lien entre foi et œuvre? Jusqu'à présent, nous avons été très superficiels. Vous avez certainement constaté que nous avons toujours regardé ce que nous devons faire, sans vraiment nous mettre à la place d'Abraham. On commence à sentir qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus personnel derrière ces versets. Et c'est un texte de la lettre aux Hébreux qui va nous mettre sur la piste. Dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommée pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc ce qu'on voit, ce qui est important, ce ne sont pas les œuvres qui sont pratiquées, mais la confiance en Dieu qui accompagne ces événements. Dans l'autre sens, dire qu'on a confiance en Dieu pour les affaires de tous les jours, mais en pratique, compter que sur soi-même, sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose, comme son porte-monnaie, il n'y a pas de foi en Dieu là-dedans. Alors, la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on inscrit une fois pour toutes sur un bout de papier. La foi, c'est quelque chose qui repose sur du concret et qui se vit au quotidien. Nos besoins quotidiens sont nombreux, comme la nourriture, le logement, l'emploi, ou même pour nous étudiants, ça me concerne plus directement, les examens. Et puis, chacun a ses besoins personnels qui sont pas forcément les mêmes que ceux des autres. Et Dieu sait très bien ce que nous avons besoin, et il exige que nous lui fassions confiance pour tout. Ceci peut se résumer ainsi. Il n'est pas dit dans la Bible que le juste ira au paradis par la foi, mais il est dit que le juste vivra par la foi.